Bonjour, vous êtes sur Bac FM 106.1 en compagnie de Lilou et Alexandre, élèves en classe de terminale au lycée Raoul Folleraud, dans une émission consacrée au prix des lycéens Folio. Des élèves de toute la France votent pour leur roman préféré parmi une sélection. Dans ce cadre, nous recevons Isabelle Oppy, l'autrice du roman L'homme qui n'aimait plus les chats, paru en poche chez Gallimard. Bonjour Isabelle Oppy.
Bonjour Alexandre, bonjour Lilou.
Avant de commencer, voici un résumé du roman pour nos auditeurs. Sur une île au large du continent, un narrateur, inconnu, raconte l'histoire de son île et ses habitants. Il parle de la mer, du vent et de leurs chats qui, depuis toujours, vont et viennent à leur rythme comme à leur choix. Mais quand ils disparaissent, sans explication, c'est la façon de vivre de toute une communauté qui s'en retrouve menacée. Isabelle Oppy nous offre un texte élégant, rebelle et audacieux afin de nous alerter sur la fragilité de nos libertés et comprendre un monde où le langage se manipule pour changer les idées. Je vais maintenant laisser la parole à Lilou pour poser ses 10 questions sur l'ouvrage.
Bonjour Isabelle. Alors comment vous est venue cette idée, cette île loin du continent et pourtant très représentative des situations qui se produisent à grande échelle, comme par exemple l'installation d'une dictature ou d'idéologies imposées à des peuples entiers?
Alors, l'idée de la manipulation par le langage, elle m'est venue par en fait l'actualité du quotidien. Même ce livre avait été écrit bien avant le Covid, en 2019. Enfin, il est paru en 2019 sur la première édition des éditions du Penseur. Il a donc été écrit avant. Mais sur l'idée de l'île, c'est parce que moi, j'ai des origines en fait sur une petite île grecque qui s'appelle Corfou, que je vous invite à visiter. C'est très joli. Et j'ai eu la chance de passer des vacances à Ouessant. C'est une île qui me plaisait beaucoup, donc j'aimais beaucoup la métaphore de l'île qui permet à la fois d'isoler et en même temps de ne pas être totalement en dehors.
Les personnages ont trouvé leur bonheur sur ce petit morceau de terre, comme votre île d'Ouessant. Ce sentiment d'appartenance qu'ont les habitants pour cette île, est-ce que ça résonne avec une émotion toute particulière que vous avez ressentie?
Ah oui, tout à fait. Déjà, effectivement, donc, je parlais de Corfou, où j'ai mes origines, donc je me sens appartenir. Chaque fois que j'y retourne, j'ai un sentiment d'appartenance très fort parce que je vais dans des rues du village qu'ont arpenté ma famille. Donc j'ai l'impression d'ouvrir une malle à souvenirs plutôt que d'aller en touriste. Ça, j'aime beaucoup comme sentiment. Et cette appartenance à la communauté, en fait, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup parce que c'est nos réalités. Il y a la communauté de nos collègues de travail, de notre famille, de nos amis, de nos proches. Parfois, c'est une communauté de quartier. Parfois, c'est une communauté aussi, ça peut être religieux, ça peut être culturel, peu importe. Mais ce sentiment d'appartenance, pour moi, il est très, très fort parce que je pense qu'on est dans une société qui se déconnecte énormément les uns des autres. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
Oui, c'est vrai que la société a une tendance à nous déconnecter. Et du coup, vous parlez d'une communauté. Est-ce qu'il y a un personnage dont vous vous sentez le plus proche ?
Oui, il y a le personnage de la veuve de pêcheur, Gwen, qui est une personnage très sanguine, très, très caractérielle et en même temps qui je trouve, a beaucoup de finesse. Donc, mais comme elle est un peu brute de décoffrage, ça ne se voit pas forcément. Donc ça, c'est un personnage dont je me sens très, très proche, un peu trop d'ailleurs.
Et donc, ce personnage vous correspond ? Est-ce que les personnages qui l'entourent, qui entourent le narrateur, est-ce que vous êtes inspiré de personnages de vos entourages ?
Ah oui, tout à fait. Le narrateur ressemble beaucoup par certains aspects à mon compagnon, qui est quelqu'un d'un peu plus posé, un peu plus réfléchi, un peu plus neutre, par certains aspects. C'est pas tout à fait le cas quand même. Il y a des moments où il dégoupille, hein, comme tout le monde. Surtout de vivre avec moi, je pense. Et puis le gardien de phare est inspiré aussi d'une personne qui m'est très très chère, qui est un très très grand ami, qui est un petit monsieur barbu qui aime bien rester un peu dans ses montagnes et voir les choses un peu d'en haut, donc ça lui correspondait très très bien. Il y a un personnage qui est directement inspiré, qui a le même nom d'ailleurs qu'une des vendeuses sur le marché sur lequel je vais toutes les semaines, donc est ravie d'être dans mon livre. Voilà, c'était des petits portraits comme ça qui me touchent du quotidien, mais j'avais envie de leur rendre hommage. Et puis je pense que c'est quand on a des personnes réelles que vraiment on arrive à les rendre réelles aussi pour le lecteur.
Est-ce que vous avez du coup directement écrit à la première personne et au point de vue interne? Parce qu'on ne sait pas grand-chose du narrateur, on n'a même pas son nom. Comment est-ce que vous avez construit ce personnage?
Ah, alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, travailler la narration et le narrateur. D'abord parce que ça me permet de me dissocier aussi de ce qu'il vit, tout en m'y identifiant, en fait, dans le sens où c'est pas moi, Donc ça, c'est très bien. Donc c'est quelqu'un que j'écoute. C'est une fonction très importante, le narrateur, dans le récit et dans le roman en général. C'est quand même celui sans qui l'histoire n'existe pas, puisque si elle n'est pas racontée, elle n'existe pas. Et ce narrateur en jeu, moi, il était très important pour moi de juste m'asseoir et d'écouter ce qu'il avait à me dire, puisque ce n'est pas moi. De la même façon que finalement incarner son rôle m'a permis peut-être aussi de faire ce petit écart vers une autre façon de penser, vers une autre façon de réagir, et ça j'y tenais. Pourquoi on n'a pas son nom, pourquoi on sait très peu de choses sur lui? Parce qu'en fait, souvent j'ai un exemple que je dis beaucoup à mes interlocuteurs quand on me pose la question. Ben là, par exemple, toi Lilou, quand tu vas rentrer chez toi et que tu vas raconter cette journée très riche d'ailleurs en émotions, enfin j'espère que je l'ai enrichi cette journée, et oui, même toi Alexandre, hein, parce que t'es toujours quand même, on t'oublie pas, quand vous allez raconter finalement cette histoire de cette journée à vos parents, vous n'allez jamais dire votre prénom. Ben oui, puisque vous parlez à quelqu'un d'autre chose. Et vous allez même parler soit de ce que vous ressentez, certes, vous allez parler de ce que vous avez vu, des autres, des réactions des autres et tout ça. Mais finalement, vous n'allez pas parler de votre description physique et vous n'allez pas dire votre prénom. Et ben voilà, c'était pour coller au plus près du langage, au plus près de la réalité de ce que c'est que raconter une histoire. Ça t'est clair ?
Oui, c'était extrêmement clair et extrêmement vrai.
Et tu n'y avais pas pensé avant, hein ?
Non.
Toi, tu y avais pensé
non,
déjà ?
Non.
Non, c'est vrai que c'est une approche très originale. Et c'est comme donc votre métaphore que vous utilisez, les chats, les chiens, pourquoi cette métaphore-là ?
Eh bien, c'est très simple. En fait, ça vient d'une expression toute bête hein, qui dit qu'on ne va pas appeler un chien un chat. Eh bien, je l'ai pris au pied de la lettre. Donc, ça me paraissait hyper évident parce que je m'étais retrouvée dans une manifestation flagrante de mauvaise foi où on m'avait appelé un chien un chat, pour le coup. Et en me soutenant que j'avais tort, en plus, soi-disant parce que c'était écrit comme ça et que du coup, j'avais juste à me taire et à accepter. Donc ça, j'étais un peu révoltée. Donc, j'avais un petit sentiment de révolte. Et donc, en partant de cette expression qui m'est venue spontanément, je pense qu'elle est même sortie dans mes arguments face à mon interlocuteur qui était un petit peu... pénible. J'ai dû dire, ça va, on va pas appeler un chien un chat, quoi. Au bout d'un moment, tu me prends pour une idiote, ça va. Et en fait, je me suis dit, tiens, si vraiment on le faisait, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'en fait, tout s'est déroulé, comme une espèce de pelote de laine. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que derrière le mot chien, derrière le mot chat, il y avait énormément de symbolique dans nos vies. Le chien, effectivement, c'est l'ami fidèle, mais peut-être un peu trop d'ailleurs, très obéissant, très soumis en fait à nous. Et puis en même temps, c'est la laisse, c'est vraiment cette image de laisse. Et le chat, c'est celui qu'on aime parce qu'il est indépendant, parce qu'il va un peu à droite, un peu à gauche. C'est un animal qui représente beaucoup la liberté, là où le chien représente la servitude. J'avais pas forcément envie de faire un texte sur la liberté, je voulais vraiment faire un texte sur la manipulation des mots. Et le fait d'employer un mot pour un autre pour vous imposer une façon de penser. Et je me suis rendu compte que oui, ça a entraîné beaucoup de choses en fait derrière. Et ça a parlé. Du coup, en déroulant, c'était la liberté, c'était les réseaux sociaux, c'était nos zones d'influence, c'était notre vivre ensemble, c'était notre liberté d'être soi, notre liberté de penser. Le deuil aussi fait son apparition dans cette petite fable. Donc beaucoup, beaucoup de thèmes, juste parce que j'ai déroulé une image à partir d'une expression toute bête, quoi. Comme quoi, on peut faire une histoire de pas grand-chose.
Oui, avec des mots de tous les jours.
Exactement.
Et donc la force des mots, dans votre livre aussi, vous abordez l'importance de la mère. Vous dites « la mère l'a pris ». Est-ce que ça a une signification plus forte encore qu'une une sorte d'appartenance vraiment à l'île des habitants ?
C'est au-delà d'une appartenance territoriale, même si effectivement, moi je suis quelqu'un, je viens du sud-ouest, où j'allais en Grèce dans ma famille. Donc la mère, en fait, est un élément de mon paysage, de ma vie, qui me constitue, qui me structure. Ce qui fait que quand j'ai vécu 5 ans en Alsace et j'ai adoré cette région, j'ai adoré habiter Strasbourg et la culture alsacienne et les habitants, mais il me manquait la mer. Il me manquait le goût de l'iode, l'océan. Enfin, c'est plus c'est l'océan chez moi, c'est même plus que la mer. Et c'est encore très différent. Et donc, l'océan, c'est comme un cœur qui bat. C'est quand on est devant, en fait, on sent qu'en face, ce qui s'étend, c'est beaucoup plus grand que soi. C'est beaucoup plus grand que tout ce qu'on peut imaginer et qu'on n'est pas grand-chose. Et ça nous rappelle à notre réalité, à notre statut d'être vivant, d'être humain. Et ça, j'y tiens parce que on parlait de la déconnexion des uns des autres. Mmh. Et c'est aussi une déconnexion à notre nature d'être humain qui, je trouve, est délétère pour notre bien-être aujourd'hui. Et j'aime bien me réancrer dans du réel, du concret. Et le réel, c'est nos sensations physiques avant. Donc le vent, la mer, les bruits, les sons, le toucher, voilà, tout ça qui vous décoiffe, ben, ça rappelle que les choses importantes, il faut ouvrir les yeux au monde autour de soi. Et les choses importantes, ce n'est pas juste le dernier mail, le dernier truc, ce n'est pas ça. C'est pas qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone, je l'ai mis où. Non, c'est plus que ça.
Donc l'important, c'est encore une fois des mots. Est-ce que vous aimeriez quand même adapter votre livre au cinéma ou au théâtre?
Alors, effectivement, il y a une adaptation de théâtre qui est prévue, qui est en cours. Il y a une troupe de théâtre qui s'est emparée du texte pour essayer de l'adapter. C'est vraiment encore une autre écriture, donc c'est très intéressant de voir son texte réécrit par quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, moi, j'en ai fait un livre, et on parlait de l'importance des mots, voilà. Dans le livre, il y a livré, donc j'ai livré cette histoire, elle ne m'appartient plus. Bon, il y a toujours mon nom dessus, hein, faut pas déconner. Mais sinon, non, elle ne m'appartient plus. Pour moi, elle appartient au lecteur, à ce qu'il en fait. Et il va décider soit de se l'approprier, soit de la laisser de côté parce que ça ne lui parle pas. Et c'est très bien. Et là, voilà, j'ai des lecteurs qui sont décidés de le réadapter, d'en faire une autre forme de narration, puisque le théâtre, c'est une autre forme, c'est une autre façon de raconter cette histoire. Et donc, il l'a modifié, hein, le texte est vraiment modifié. Il y a des personnages qui viennent, d'autres qui sont inventés. Ça dépend un peu de l'humeur. C'est intéressant de voir ça en tant qu'auteur. Moi, je ne me sens pas dépossédée de mon texte parce que c'est pas. Pour moi, je l'ai donné. Je l'ai offert, en fait. Mais on verra. Pour le cinéma, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un aura envie d'en faire quelque chose. Ma mère m'a toujours dit qu'elle le voyait bien en dessin animé ou en BD. Quelque chose d'un peu moderne, comme ça. Pourquoi pas, j'en sais rien du tout. On sait jamais. Ce texte, de toute façon, il me surprend. Il va dans des endroits que je ne soupçonnais pas. Je me retrouve ici avec vous. voilà, j'aurais jamais pu prévoir ça il y a 5 ans quand il est sorti la première fois. Donc, on ne sait pas où ça va aller. Il faut se laisser la surprise.
En effet, cette adaptation au théâtre, ça nous ferait grand plaisir de la recevoir à Nevers pour un livre qui nous a énormément plu. Donc, nous n'avons pas tout à fait fini cette interview. Alexandre continuera. Nous allons faire une petite coupure avec 100 commentaires du groupe Autour de Lucie.
Thank you.
Nous sommes de retour sur Bac FM avec Lilou et moi-même, Alexandre, élève de terminale au lycée Raoul Folreau, dans une émission spéciale consacrée au prix des lycéens folio. Nous sommes toujours en compagnie d'Isabelle Hopi, autrice du roman « L'homme qui n'aimait plus les chats ». Nous allons maintenant aborder, si vous le voulez bien, votre relation à l'écriture.
Je veux bien.
Ben, je vais commencer alors. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivaine et quels sont vos souvenirs liés à l'écriture ?
Alors, ce qui m'a poussé à écrire avant de devenir écrivain, parce que c'est ça d'abord, il faut d'abord commencer par écrire avant d'être reconnu en tant qu'écrivain, c'est la lecture. Je pense que faut pas croire, hein. Et on lit d'abord avant de tomber dans l'écriture. J'étais une très très grande lectrice, je lis depuis que j'ai l'âge de 4 ans. J'ai appris à lire très tôt. Et alors ça a commencé par les albums de Oui Oui à 4 ans, je ne peux pas rigoler non plus. Mais après j'ai compulsé très rapidement en fait la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, je ne sais plus ce qu'on avait, on avait des trucs comme ça à l'époque. Et très rapidement je voulais des livres sans images. En fait j'étais fascinée par l'objet livre et du coup je prenais les livres sans images. Et en fait j'ai appris à lire comme ça parce que ma mère s'est dit mais t'as envie de lire? Et je dis oui, et du coup à 4 ans elle m'a filé une espèce de manuel où il y avait marqué B et A ça fait bas, P et A ça fait pas. Et j'ai appris à lire comme ça. En fait, tout simplement. J'ai pris le truc et j'ai fait « ok ». Et j'ai appris à lire comme ça. Ce qui fait que je continue à lire tout le temps. Et quand je suis arrivée en CP, parce que j'avais pas trop fait de maternelle. Et quand je suis arrivée en CP, la prof de CP, elle a pas compris. Elle a fait « mais en fait, tu sais lire ?» J'ai dit « bah oui ». Et moi, je comprenais pas pourquoi ça posait problème. Et elle m'a dit « en fait, là, t'es censée apprendre à lire sur cette année. Donc, il va falloir qu'on fasse quelque chose. » Et du coup, j'ai sauté le CP. Je suis passée directement en CE1. Alors, comme je savais lire, mais j'avais un petit défaut, c'est que je n'avais pas les doubles sens des mots. Donc, par exemple, j'ai une petite anecdote comme ça où il y avait une consigne et marqué « relever les mots qui contiennent telle lettre ou tel machin ». Et moi, je ne faisais pas l'exercice. Et quand la prof me demandait « mais pourquoi tu ne fais pas l'exercice ?» Mais parce qu'il n'est pas tombé, le mot, en fait. Donc, je ne peux pas le relever. Et je ne comprenais pas le sens du mot parce que je n'avais pas eu les consignes comme ça. Donc, voilà. C'est comme ça que je suis rentrée un peu dans les mots et dans ces jeux. Je crois qu'il y avait quelque chose, des doubles sens qui m'interpellaient parce que je ne suis pas rentrée naturellement dans l'écriture, enfin pas dans le cursus habituel on va dire, dans la lecture pardon. Et après, comme tout le monde, mais en tout cas personnellement j'ai fait comme ça, à partir de quand j'étais ado, je commençais à écrire des poèmes parce que c'est comme ça qu'on a l'impression d'écrire bien, c'est quand on fait des belles rimes avec des beaux mots, parce qu'il faut beaucoup de maturité pour déceler toute la beauté et toute la poésie de la prose. Donc, j'ai commencé à écrire, à graphier des trucs, là, quand j'ai eu 15 ans. J'ai écrit un truc qui fait 3 tomes, j'appelais le roman de la honte, qui a fini à la poubelle, après. Il y avait, je ne sais pas combien de centaines de pages, une horreur. Enfin, aujourd'hui, je trouve que c'est une horreur. J'ai arrêté quand j'ai passé ma première année de médecine. Et j'ai vraiment repensé, j'avais toujours voulu être écrivain. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et, sauf qu'il fallait manger. Et qu'en plus, j'étais pas vraiment dans un milieu... familial favorable à ça, favorable à une expression artistique, favorable à juste prendre confiance en soi, pas du tout. Bon, on m'a expliqué que des merdes comme moi, il y en avait plein de caniveaux, donc j'allais certainement pas écrire quelque chose un jour, quoi. Et pourtant, ben voilà, j'y suis allée, j'y ai cru. Et des fois, il faut croire en soi, faut aller au bout des choses. Et c'est ma fille qui m'a donné le courage, en fait, de vouloir être la mère qu'elle méritait, de vouloir être le modèle féminin qu'elle méritait. Et je ne pouvais pas dire à ma fille de croire en ses rêves si moi, je ne me relançais pas dans les miens. Donc, je me suis remise à écrire à l'âge de 32 ans, je pense, 2016. Donc, oui, à peu près. Et j'y suis allée et voilà. Et j'ai réussi à aller au bout de cette aventure-là.
Nous sommes donc en présence d'une lectrice et d'une écrivaine aguerrie et endurcie. Vous y avez partiellement répondu, mais du coup, quelle place les lettres occupent-elles dans votre vie, vous qui, on le rappelle, êtes kinésithérapeute ?
Ah, mais les mots, ils sont tellement importants dans mon métier. C'est-à-dire que on peut pas... je sais pas comment dire ça. Les mots, le langage, pour moi, est une arme extrêmement puissante. Ça peut blesser très fortement. On l'a tous vécu, je pense, des mots qui nous font mal, vraiment mal, hein. Des insultes, des choses comme ça. On se rend compte que ça nous met à mal, suivant d'où elles viennent, de comment elles sont formulées, de tout ça. Et moi, j'ai envie, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, hein, cette façon de dénigrer l'autre, d'exprimer du pouvoir sur des gens faibles. C'est quelque chose que j'ai subi. Et en fait, quelque part, me réapproprier ces mots-là. Parce que le langage est une arme et en fait, elle vous appartient. Elle nous appartient à tout le monde. Donc si elle appartient à des gens qui peuvent nous faire du mal, elle nous appartient à nous aussi pour nous guérir, pour nous soigner, pour faire quelque chose. Et dans mon travail, je travaille aussi, quand je travaille à l'hôpital, je travaille aussi en parallèle avec, sur des projets de médecine narrative. Donc c'est une façon en fait de réintroduire une histoire dans l'histoire de la maladie du patient. C'est très intéressant parce que ça aide en fait à comprendre aussi ce qu'il vit dans sa maladie et pas juste être très clinique et à dire il y a tel symptôme, tel truc, et voilà. Donc ça, c'est les mots sont primordiaux pour moi. Le langage, en fait. La communication, le langage. Et j'incite tout le monde à s'approprier ses propres mots, vraiment pour... Parce que c'est une arme puissante et qu'il n'y a pas de raison qu'on l'utilise contre nous. Et c'est à nous aussi de l'utiliser pour soi, en fait.
C'est vrai. Mais alors, quelles sont les influences littéraires, vos influences littéraires qui ont aiguisé ces mots?
Waouh, beaucoup, beaucoup trop. Je lisais tellement... Donc forcément, tout m'a influencée. Je crois que j'ai compris mon rapport aux mots quand j'ai lu un roman qui s'appelait Stoner, de John Williams, qui est un grand classique de la littérature américaine qui n'est pas très connu en France. Mais c'est très, très classique chez les anglo-saxons. Stoner raconte l'histoire d'un paysan, d'un fils de paysan, qui, pour reprendre la ferme, en fait, doit faire, comme ça se modernise l'agriculture aux États-Unis, il doit faire des études. Il doit faire des études à la fac. Et il a, dans ses UV à valider, il a littérature anglaise. Et il découvre les poèmes de Shakespeare et il va devenir professeur de littérature. Lui qui pensait être infirmier et qui n'avait jamais reçu d'éducation littéraire. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il découvre à l'intérieur des poèmes, il découvre à l'intérieur de la littérature le pouvoir narratif. On parlait du narrateur comme ça, mais dans la narration, dans les mots, ça doit vous le faire si vous êtes des grands lecteurs. Vous avez l'impression de vivre quelque chose alors qu'en fait vous n'êtes que en train de le lire. Tout est sublimé, tout est magnifique en fait. Les yeux sont pas juste bleus, ils sont aussi profonds que l'océan. Ils sont comme un ciel où on se perd. Enfin, on en fait des caisses aussi, on adore. Mais en fait, du coup, on rêve. Du coup, on y va. Du coup, ça s'imprègne et on le sent. On le sent en soi, même physiquement. Parfois, on a envie de pleurer, on a peur, Et moi, je trouve que c'est incroyable ça. C'est un pouvoir extraordinaire, le pouvoir narratif. Parce que même les histoires qu'on se raconte soi-même, sans forcément les écrire dans un livre, les versions qu'on a de nos vies, de nos choses, ça va modifier notre façon de les percevoir, ça va modifier nos façons de les vivre. Et parfois, on va prendre très mal des choses qui, en fait, peuvent être très anodines. Et inversement, on va pouvoir se guérir de choses qui auraient pu être très traumatisantes.
Ben, c'est vrai que le pouvoir de la littérature décuple les émotions. Mmh. Et c'est vrai que écrire, c'est bien, mais après, il s'agit de publier et de trouver un éditeur. Et c'est vrai que le grand public ne sait pas souvent comment se passe le processus d'édition. Donc pouvez-vous, si vous le voulez, nous expliquer brièvement comment se passe l'édition d'un ouvrage?
Alors, habituellement, je ne vais pas trop parler de mon expérience, parce que j'ai une expérience un peu atypique là-dedans, dans le sens où j'ai jamais vraiment cherché, moi, à avoir... Enfin, j'ai été éditée sans passer par la case normale, parce que j'ai pas forcément... j'ai jamais cherché à être éditée, j'ai toujours été choisie par quelqu'un. C'est un peu bizarre. C'est très exceptionnel, faut pas le prendre comme une absolue. Le processus d'édition, déjà, c'est un processus qui se passe déjà à l'intérieur de l'auteur. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a écrire. Et souvent, quand on commence à écrire, parce qu'on en ressent le besoin, parce qu'on a quelque chose à raconter, parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir, ben, déjà, il y a le fait d'arriver jusqu'au point final. C'est déjà une aventure. C'est déjà un temps qu'on prend, où on se pose, où on met le reste entre parenthèses pour se consacrer à ça. Et c'est déjà un défi d'aller au bout du texte. Et après, c'est un défi que de le relire et de le corriger. Après, c'est encore un défi que de se critiquer et de se dire... Qu'est-ce que j'en fais? Alors certains, ça va rester dans un tiroir. Et certains vont se dire, bon là, je sens que je suis prêt, j'y vais. Et donc il y a tout un mécanisme, mais ça prend du temps, hein, ça peut prendre des années. Hein. Entre la rédaction d'un manuscrit et l'envoi et la publication, il peut se passer vraiment plusieurs années. Mais parfois 10 ans. Hein. Et après, le fait d'avoir le courage d'envoyer, ça, et envoyer, c'est déjà se dire, alors la norme, c'est d'être refusé. C'est pas d'être accepté. Donc ça veut dire que là, il faut que j'encaisse le fait que tu as toutes les chances pour que je sois refusée. Pas facile, parce qu'on a beau se dire j'encaisse, quand on reçoit refus sur refus sur refus sur refus, ben, au bout d'un moment, ça fait mal, quoi. Et c'est pareil, donc c'est réessayer, réessayer avec un autre projet, ou alors retravailler le projet, mais c'est le retravailler vraiment, pas juste corriger les fautes, c'est réécrire complètement, changer des choses. Mais comment on fait quand on est seul et qu'on n'a pas un regard extérieur? C'est très complexe quand on est auteur. C'est bien d'avoir des bêta-lecteurs, c'est bien d'avoir autre chose. Et une fois qu'on est accepté, ça aussi c'est encore autre chose, on signe, ça y est, on est content. Alors déjà, il faut faire le tri entre les différents types d'éditions. Donc ça, on pourrait faire toute une émission rien que là-dessus. Si ça vous intéresse, on le fera un jour. Mais là, je pense qu'on va bouffer tout le temps. Et après, une fois qu'on a le contrat, bah, c'est se dire, attends, ça y est, j'ai le Graal, ça y est, machin. Et on attend toujours quelque chose et quelque chose qui ne vient pas parce qu'on est personne. On est personne dans un milieu qui est très, très vague. Très honnêtement, le monde du livre est un monde de frustration. Mais c'est aussi quelque chose d'enrichissant. C'est aussi le fait qu'il faut du temps pour mûrir. Moi, maintenant, je suis à mon troisième roman. Et c'est au bout de mon troisième roman, déjà, que je me suis sentie un peu plus écrivain. Et que j'ai aussi appris, grâce à mon métier de kiné à côté, à relativiser les choses, à relativiser les frustrations, à relativiser ces échecs et ces réussites qui s'entremêlent entre j'ai des réussites quand même, mais à côté, on ne me laisse pas ma chance parce que je suis personne. C'est très délicat. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, parce que c'est vraiment une question qui est très vaste.
Oui, oui.
Ça va, ça donne une idée un peu.
Après, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il est quand même assez facile de se munir d'une feuille d'un stylo, mais quand il s'agit d'écrire et après de faire publier, on l'oublie souvent, ce processus assez... long, complexe et qui n'est pas facile du tout.
Ah oui, on pense que dès qu'on a fini le point final, ça y est, c'est bon. Non, il y a une maturité à avoir. Là, pour te donner une idée, L'homme qui n'aimait plus les chats, c'est mon premier roman édité, c'est le sixième que j'ai écrit. Et je pense que tous les autres ratés avant m'ont aidé à écrire celui-là. Donc moi, je le vois pas comme un raté, en fait. Je le vois comme un... je sais pas, un feuillet qui s'entasse et ça m'apprend des choses.
Mais c'est vrai que écrire, ça peut également engendrer parfois des blocages créatifs. Donc, est-ce que vous en avez? Et si oui, comment les gérez-vous?
La page blanche. Oui. Le principe de la page blanche. Alors, souvent, moi, je compare la page blanche. Je sais pas si je peux parler de blocage créatif. En fait, des fois, il y a des trucs qui me viennent pas et du coup, je force pas. Quand ça vient, ça sort. Je suis un peu comme ça, moi. La page blanche, c'est plus pour moi un manque de musique. J'ai besoin du ton. Très souvent, en fait, je passe par un narrateur. Le narrateur, il a une voix qui lui est propre. C'est pas moi. Donc, comme c'est pas moi, il parle pas comme moi. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des similitudes dans nos façons de parler ou quoi que ce soit. Mais dans d'autres textes que j'ai écrits, le style est radicalement différent. Parce que le narrateur est complètement différent. C'est d'autres personnes qui ont vécu d'autres choses. Ils ne parlent pas comme moi, je parle. Et j'ai juste besoin de trouver le ton et la voix du narrateur. À partir du moment où j'ai trouvé le ton et la voix du narrateur, en fait, je me pose, je pose mes fesses, littéralement, et j'écoute. Et j'écoute ce que le texte a à me dire, j'écoute ce que le narrateur a à me raconter. Et à partir de là, en fait, ça déroule. Donc, j'ai pas tant... Et après, je suis pas un écrivain qui s'astreint à... Il faut que j'écrive tous les jours, il faut qu'à chaque fois j'avance, machin. Moi, très souvent, si je bloque, c'est que j'ai pas trouvé le ton comme il faut, c'est que ma structure narrative tient pas, donc il faut que soit que je reprenne le début comme il faut, soit que c'est que le truc me parle pas et je laisse tomber, je passe à autre chose. Je suis pas quelqu'un qui va forcer le blocage, ça m'intéresse pas trop, ça. Et en plus, je trouve qu'après, ça nous met mal. Moi, j'ai des auteurs que je fréquente, ils sont en PLS. Dès qu'il y a une page blanche, c'est une horreur. Il faut presque les réanimer.
C'est vrai, c'est difficile quand l'inspiration ne vient pas. On est sous pression un petit peu. Mais comment choisissez-vous alors les thèmes et les sujets de vos livres?
Selon mon besoin. C'est une question. C'est toujours une question que je me pose. Parce qu'elle vient à ce moment-là. C'est la situation autour de moi. Moi, je suis très ancrée dans le réel, en fait. J'ai un métier qui est très, très physique, très corporel. Je suis ancrée dans la réalité de la vie parce que je travaille à l'hôpital, donc je vois tout. La maladie, les souffrances, les douleurs, la mort, la naissance, l'espoir. Je vois tout. Tout ce qu'il y a de plus concret et réel. On parlait de la mer et du vent. C'est ma mer et mon vent à moi, en fait. C'est ça, en fait. L'hôpital, c'est ma petite île où à chaque fois, ça bat. Et que la vie me rappelle à sa réalité, à notre condition. Et donc, en fait, il y a toujours des choses qui se passent autour de moi. Et quand il y en a une qui me pose vraiment question, là, dernièrement, il y en a une qui m'a énormément posé question, du coup, j'ai besoin de répondre, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, j'ai besoin de comprendre ce que je viens de vivre, j'ai besoin de me dire est-ce que j'aurais pu faire mieux ou pas, et de le mettre en fait dans une histoire. Donc c'est jamais trop réel, c'est toujours un peu métaphorique, c'est toujours des situations, mais je me dis putain là, il s'est passé un truc important je crois, et ça me questionne, et j'ai pas la réponse, j'ai jamais la réponse quand j'écris, parce que sinon j'écris pas. Si je connais la fin de ce que j'écris, je l'écris pas, parce que ça me saoule, je m'ennuie. C'est un peu comme quand je lis, quand je connais la fin, ça me saoule. Donc du coup, je pose la question, je déroule, et j'essaie d'y répondre à travers le texte.
Vous êtes écrivaine, mais même si c'est pas votre métier à plein temps, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps eu des écrivains, de tout temps il y a eu des écrivains, certains qui ont réussi, d'autres moins, qui sont passés un peu à l'oubli, malheureusement. Mais comment, à l'heure d'aujourd'hui, percevez-vous le rôle de l'écrivain dans la société moderne ?
Oh là là, je vais dire un truc terrible. C'est en fait, on m'avait posé une question comme ça. Ce livre a reçu un prix au moment de sa parution. C'est le prix des vendanges littéraires de Rivesaltes. C'était super, j'ai gagné 100 bouteilles de vin. En plus, un super week-end et tout à Rivesaltes, ville magnifique. Et on m'avait posé la question. De pourquoi vous avez voulu être écrivain ou quoi que ce soit, ou j'ai dit mais pour la liberté de l'inutile. Elle est très dure ma réponse, mais en fait moi je travaille à côté dans un milieu de la santé, en plus je travaille en cancérologie, en réanimation, et je travaille dans une structure qui a justifié l'esclavage potentiellement, et le fait de ne pas payer les gens, le fait de ne pas leur accorder leurs congés, leurs heures supplémentaires ou quoi que ce soit, à travers le fait qu'on est indispensable. Que sans nous, le patient ne va pas s'en sortir. Que sans nous, avec ou sans nous, ça tourne l'hôpital en fait. C'est pas vrai. Et quand je me suis retrouvée à faire un accouchement prématuré de ma fille, qui allait finir en réa si elle sortait à ce moment-là, et que clairement l'hôpital n'était pas là pour moi, je me rendais compte que j'étais là pour une structure, pour un truc, parce que j'étais indispensable, parce que j'étais hyper utile. Et je te jure, un écrivain, ça sert à rien. Je veux dire, si j'arrête d'écrire, il y a 10 000 livres qui existent. Est-ce que ça va vous rendre plus bête? Est-ce que vous n'aurez pas à trouver des choses là-dedans, dans cette bibliothèque qui, moi aussi, m'a façonnée, qui ne va pas vous rendre des bons adultes, des gens capables de penser, des gens capables de vous développer? Les livres, il y en a des milliers chaque année qui sortent. On pourrait arrêter la production littéraire aujourd'hui, qu'on aurait toujours des choses à lire. Un livre qu'on n'a pas lu est toujours une nouveauté et nous apprendra toujours quelque chose. Donc, moi, j'adore le fait de servir à rien, là, de me dire que si j'arrête d'écrire, c'est pas grave, que personne m'attend. Je trouve une liberté dans cette inutilité du fait que les gens ne dépendent pas de moi. Ça me plaît, ça me repose, t'as pas idée. Je sais pas si ça t'a surpris ma réponse.
Bah, c'est vrai que c'est une réponse atypique, mais c'est une vision, et c'est ça, justement, l'enjeu et la joie de recevoir un écrivain, c'est de voir ces réactions qui sont atypique, qu'on ne s'attend pas.
Sur cette question, c'est vraiment atypique. Je pense qu'il y a très peu d'auteurs qui vont te répondre à ça. Mais voilà, moi, c'est vraiment ma façon de penser.
Mais c'est ça qui est génial. Et du coup, vous qui êtes très franche, comment gérez-vous la critique et la réaction des lecteurs ?
Très bien. Alors d'abord, parce que je ne suis pas assez connue pour avoir beaucoup de critiques, qu'en général, les réactions sont plutôt bonnes. Et que comme dit, le livre, il n'est plus à moi, donc il est livré, et au lecteur d'avoir le droit de ne pas l'aimer, bon sang. Mais c'est un livre sur la liberté, si je vous impose d'aimer mon livre, ça ne va pas. Non, des fois je réagis mal quand je trouve que c'est de mauvaise foi. Quand je trouve que la critique, elle me donne juste l'impression que la personne, elle n'a rien compris, et en même temps, je me dis, elle a le droit d'avoir rien compris, c'est pas... Je les regarde pas trop, donc... Moi, une fois qu'il écrit le bouquin, qu'il est livré, je passe à autre chose, j'ai un autre truc dans la tête. Voilà. Je ne suis pas assez connue pour avoir de critiques, de toute façon.
Merci pour ces questions.
Tes réponses.
Pour ces réponses, pardon.
Merci à toi pour tes questions.
Et je laisse à nouveau la main à Lilou qui va vous lire un extrait de votre ouvrage, L'homme qui n'aimait plus les chats, et qui nous paraît être un moment de bascule de l'histoire.
Les chiens. Appelés les chats par les gens de l'administration, sont distribués aux habitants de l'île. Certains les acceptent volontiers, tandis que d'autres entrent en résistance et refusent d'aller récupérer ces soi-disant chats, qu'ils continuent, eux, d'appeler chiens. Dans cet extrait, le narrateur discute avec Thomas, le gardien de phare, à propos d'une de leurs amies qui refusaient de prendre un chien de l'administration. Et Gwen, tu sais comment ils lui ont refilé leur chien ? Ils en ont donné un à Gaël, je sais, oui. Ah, t'es au courant ? Utiliser son fils pour la surveiller, elle. C'est minable. Mais ce n'est peut-être pas pour la surveiller. Je veux dire, j'ai vu son chat à Gaël. Il est plutôt gentil. Son chien. Pardon ? Tu as dit son chat. C'est un chien. Je me souviens du silence qui a suivi. De ses gestes interrompus, de son regard inquiet. Pas déçu, ça non. Mais inquiet, oui. Et moi, j'ai pris conscience de ma façon de parler. Que pour moi, c'était devenu des chats. Et que je n'aimais plus les chats. Les chats, je les aimais parce qu'ils ne nous sont pas soumis. Ils viennent parce qu'ils le veulent, non par habitude, ou de ne pas savoir où aller. J'ai réalisé qu'à la question « C'est quoi un chat pour vous ?» j'aurais dû répondre « Un animal qui ne se tient pas en laisse. » J'aurais dû répondre « La liberté d'être soi. » C'est à ce moment que j'ai compris pourquoi c'était si important pour eux de changer le nom des chiens, de nous inciter à croire à des chats, de nous donner l'illusion de posséder les mêmes choses pour qu'elles ne nous manquent pas.
Merci, Isabelle Hopi, d'avoir accepté cette interview. Nous vous souhaitons beaucoup de succès pour vos romans. Notre émission touche à sa fin. Merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt sur BAC FM.
Merci beaucoup.
Merci, Isabelle Hopi.